Ce premier jour de carême commence, après le baptême de Jésus, les trois tentations du Christ que nous connaissons très bien. C'est toujours avantageux de les méditer. Tout l'être est concerné, récapitulé, dirais-je, par ces trois tentations, finalement. Saint Jean les résume ainsi. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Ainsi, on passe du niveau purement charnel, le corps et ses appétits, la nourriture, le sexe, que sais-je, les yeux, tout ce que nous pouvons désirer lorsque nous faisons du lèche-vitrine, lorsque nous regardons ce qui attire les regards des hommes en général. Des objets, bien sûr, mais aussi des êtres que nous traitons alors comme des objets. Connaître celui-ci, celle-là, etc. Et la vanité en général. Et puis l'orgueil de la vie. Le fait d'être vivant, et d'être là dans le moment présent, et non pas il y a deux ou trois siècles, et non avant, et non pas deux ou trois siècles dans le futur, mais maintenant, fait que c'est nous qui avons le pouvoir sur la création, c'est nous qui avons le pouvoir sur notre vie, sur nos choix. Et finalement, on peut se prendre pour des dieux. Ainsi, donc, la chair des trois convoitises, elle se rapporte aux trois tentations du Christ, les pierres changées en pain, la nourriture, ça c'est la chair, les royaumes et leur gloire, ça c'est vraiment la convoitise des yeux, tout ce que peut apporter le succès en général. Et puis, le temple, ça représente vraiment l'orgueil, c'est la demeure de Dieu, le temple. Donc là, l'orgueil du vivant, le vivant dit à Dieu, moi je décide de mon sort, toi tu n'as pas pouvoir sur moi. Alors le combat spirituel du désert. On voit tout de suite que Jésus n'y va pas de lui-même, il est un exemple pour nous. C'est l'Esprit-Saint qui le pousse au désert, et derrière l'Esprit-Saint, il y a la volonté du Père. C'est donc applicable à nous-mêmes. Ne nous scandalisons pas des épreuves en ce monde, parce que c'est comme si le fait de naître à ce monde, c'était être envoyé dans le désert. Parce que cette confrontation, ce combat avec le diable a pour but de nous purifier, de nous affiner. C'est en tout cas a pour but de nous faire choisir notre camp, celui du Seigneur bien sûr. Le diable n'est pas la figure principale de ce récit. C'est pourtant une figure fascinante, le diable. Ça fascine tout le monde, y compris bon nombre d'incroyants. Le diable, ça. Et là, en fait, il est juste un instrument. Il apparaît dans le récit comme un simple instrument. C'est Jésus, c'est le croyant derrière Jésus, derrière l'image du Christ, qui est le personnage principal. Ce diable-là, finalement, ne fait rien, ne crée rien. Il ne fait que nous pousser dans la mauvaise direction. On reconnaît là le serpent des origines, celui qui parlait à Ève mensongèrement, il parle de la même façon au Christ ici dans ce récit. C'est le serpent que Jésus combat face à face. C'est un combat, c'est vrai, qui est difficile pour les hommes qui sont divisés, pour les hommes qui n'ont pas encore franchement choisi entre les nourritures terrestres et les nourritures célestes, entre vraiment les valeurs terrestres, les valeurs célestes. Et même nous le savons bien, on n'est pas toujours unifiés tous les jours. Il nous arrive malheureusement d'être partagés. Mais nous reprenons, car le Seigneur est à notre côté sans cesse. En revanche, le combat spirituel, celui du désert qui nous est décrit ici, est facile lorsque nous sommes unifiés par quoi ? Par le désir du ciel. On l'appelle l'espérance. C'est la vertu théologale qui est proprement associée au désir du ciel, le désir de Dieu comme bonheur, comme fin ultime. Là, dans ce cas-là, eh bien, on use des choses de ce monde, comme dit saint Paul, mais sans être l'esclave des choses de ce monde. On en use comme des instruments et rien de plus. On est libre. En revanche, quand on est attaché vers le bas par les appétits, on est prisonnier. Le premier récit du Deutéronome, Moïse, demande au peuple de faire mémoire tous les ans de cette délivrance, de cette libération de l'Égypte, des valeurs terrestres donc. Si nous sommes libres vis-à-vis des valeurs terrestres, nous les gérerons comme il convient qu'elles soient gérées, elles seront sous nos pieds, à notre service. Sinon, ce sont elles qui se serviront de nous. Donc Moïse rappelle au peuple que sans Dieu, on ne peut rien faire. Il leur rappelle qu'ils étaient des Araméens, errants, d'une petite tribu qui a été en Égypte, et là, qui a été réduite à l'esclavage et vouée à la souffrance. Dieu a eu pitié de ce peuple. Dieu a eu pitié des âmes qui sont prisonnières du monde. Et nous, nous devons faire mémoire de cette libération. Ne croyons pas que nous n'avons pas été libérés, que nous n'avions pas besoin de libération. Nous en avions tous besoin. Et si nous sommes nés sur la terre promise du baptême, c'est parce que nos parents, ou peut-être nous-mêmes par la conversion, mais par la naissance, c'est forcément parce que nos parents, ont veillé à se libérer de l'Égypte pour pouvoir nous trouver une atmosphère spirituelle, une oasis spirituelle, une oasis promise, si j'ose dire, qu'est la foi. Et ils nous ont conduits à l'Église. L'Église, c'est ce lieu d'apprentissage de la liberté, de protection de la liberté. Donc Moïse nous demande sans cesse de faire cette mémoire, et en carême, il convient de la faire plus que tout. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. La foi, c'est tout le contraire de cette volonté de conquête du monde. Ça, c'est le penchant naturel de l'homme. Conquérir le monde et exprimer toutes ses qualités, les faire fructifier. Notre nature est faite pour ça. Il n'y a rien d'horrible dans cet attrait. Simplement, il faut le maîtriser. La foi, c'est donc tout le contraire. C'est l'éducation à la maîtrise de la conquête du monde. Il faut perdre sa vie, dit Jésus. Qui perd sa vie à cause de moi la sauvera. Voilà le remède. Le remède parce que à quoi sert de conquérir le monde si tu dois le payer de ta vie, dit-il. Pourquoi cette hantise des hommes a laissé un nom derrière eux? Parce que finalement, conquérir le monde, ça veut dire ça, laisser un nom derrière soi. Pourquoi ne pas penser que tous les noms qui sont sur les pierres tombales suffisent bien? Pourquoi graver son nom ailleurs? D'ailleurs, les livres d'histoire se souviennent des noms, mais ils ne se souviennent pas des personnes que ces noms désignent. Tout cela est vanité, nous dit le sage. Vanité des vanités. C'est pas vivre, c'est perdre sa vie, tout ça. Le désert du carême, nous apprend à aller contre ce mouvement de notre nature. Parce que c'est un mouvement qui va vers la terre et non pas vers le ciel. Et ce désert, ce dépouillement du carême nous pousse au contraire à méditer cette parole « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière », à nous faire entrer dans une grande humilité, à nous rendre compte de notre dépendance totale envers Dieu et à y trouver notre joie. Parce que là est la vraie joie. Et le fruit vraiment de ce carême, de cette réflexion, de ces tentations que nous endurons, eh bien c'est la paix et c'est l'équilibre. Ce sont des dons très précieux que le Seigneur nous donne dans sa sagesse pour que nous communions à sa sagesse. Alors au cours de ce carême, méditons bien et combattons, sans nous scandaliser de cette nécessité du combat. Combattons le diable, mais pas comme un personnage mythique et fascinant, même dans l'horreur. Non, combattons simplement de mauvais penchants qui nous font, qui attirent notre regard vers le haut au lieu de nous attirer, qui attirent notre regard vers le bas au lieu de le tourner vers le haut. Amen.